Alors, le titre du message ce matin, c'est « La famille biblique, une création biblique et éternelle ». Et comme introduction, j'aimerais vous dire qu'on trouve le mot « famille » dans toute la Bible. C'est un mot qu'on retrouve dans toute la Bible. Le mot est mentionné 325 fois. Donc, c'est un sujet qui est très important pour notre Papa du ciel. Vous savez, quand un mot est répété souvent dans la Bible, ça a une certaine importance. Quand Jésus, je vous le dis en vérité, je vous le dis, c'est parce que c'était, autrement dit, on aurait dit aujourd'hui, je le jure, là, mais il y a beau rien dire ça, c'était la vérité et la vraie vérité. Donc, ce mot-là est mentionné 325 fois, un mot important. Et le sujet de la Bible apparaît dès le livre de la Genèse, dès au commencement. Et on le retrouve dans le dernier livre, qui est l'Apocalypse. Donc, on pourrait dire, d'un couvert à l'autre, on retrouve le mot « famille ». Dans la Genèse, on retrouve ce mot-là 19 fois. Et c'est dans le livre de la Genèse, bien sûr, que Dieu a créé la famille. Il a créé Adam et Ève. Et les deux, sans enfants, formèrent la première famille de la terre. Le premier couple, la première famille de la terre. Et un peu plus tard, dès les premières pages de la Bible, Dieu a fait une promesse à Abraham lors de son premier appel, alors qu'il était encore dans sa terre natale. Et Dieu lui dit, « Je bénirai, Genèse 12, verset 3, vous pouvez aller, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce verset-là est vraiment un verset encourageant. Lorsqu'Abraham a entendu ça, mais il y a de quoi se poser des questions. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que toutes les familles de la terre sont bénies? Non. Un peu plus tard, bien des années plus tard, Dieu renouvelle cette promesse-là dans Genèse 28, verset 14. Vous pouvez l'écrire sur un papier, Genèse 28, verset 14. Et là, Dieu dit à Abraham, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Là, on a rajouté quelque chose de plus. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, il faut faire attention. Dieu n'est pas en train de dire que tous les hommes ou toutes les femmes seront bénies. Autrement dit, toutes les familles seront bénies. Dieu, il ne dit pas non plus que ce sont les nations qui seront bénies. Mais Dieu dit que c'est la postérité d'Abraham qui sera bénie. Et savez-vous quoi? Cette postérité-là, c'est celle de Jésus. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont sauvés, font partie de cette postérité-là. Et même dans l'Ancien Testament, lorsque Christ n'était pas encore venu, c'est la foi, c'est toujours la foi. Ce n'est pas l'obéissance aux 10 commandements, mais c'est par la foi. Abraham, justement, par la foi, a suivi ce que Dieu lui a dit. J'aimerais qu'on puisse regarder, premièrement, la définition du mot « famille ». Et j'ai pris ça dans le Nouveau Dictionnaire biblique. Dans l'Ancien Testament, ce terme désigne non seulement ceux qui habitent sous le même toit, et on peut voir ça dans Exode 12, 14, mais aussi la maison d'Israël, c'est-à-dire le peuple israélite. Et pour ceux qui prennent des notes, le passage à vérifier, c'est Ésaïe 5, 7, qui considère dans son entité le peuple israélite comme une famille. Dans le Nouveau Testament, le mot « patria » n'est mentionné que trois fois, bien que l'idée de la maison ou du ménage apparaissent plus fréquemment. Et dans le grec, c'est le mot oikos ou oikia, pas du yoga, là, mais c'est... Le mot patria désigne l'origine historique d'une maison, c'est-à-dire son patriarche. Donc, si à l'origine de chaque patria, il y a un père, Dieu, lui, qui existe dès les origines, est le père de toutes les familles au sens large. Hein, on va aller vérifier Éphésiens 3, versets 14 et 15. Hein? Si vous voulez aller voir dans la Bible, Éphésiens 3, versets 14 et 15, Paul dit, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc, Dieu est le Père des hommes justes. Quand je dis hommes justes, c'est hommes et femmes qui sont sauvés. Et je veux en venir à une déduction qui est certaine. Et là, c'est l'enseignement qui est important qu'on puisse retenir. On a plus de grands-parents ici que de parents, mais il y en a quand même. Et je regarde Dominique puis je dis... C'est un papa qui est jeune, de deux jeunes enfants. Il y a des bons conseils que Dieu nous amène ici. Donc, si un homme ou une femme veut connaître le bonheur, en as-tu qui veulent connaître le bonheur? On va tout élever la main. Il faut que la bénédiction touche la famille en entier. Et dans l'Apocalypse, on fait allusion à la famille. Les mots « noce » et « époux » apparaissent deux fois. Le mot « épouse », lui, revient cinq fois. Donc, là, lorsqu'il y a des noces entre un homme et une femme, il y a une famille qui se crée. Et frères et sœurs, tous ceux qui sont sauvés, là, lorsqu'on va arriver au ciel, on va être accueillis pour les noces de l'agneau. Autrement dit, mais qu'on parle de site, on s'en va aux noces. Ça va arriver lorsque toute l'Église va être enlevée. Mais on va être en train de se préparer pour les noces de l'agneau. Parce que l'Église est appelée l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Hein, Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée. Quelque temps passé, je vous parlais justement d'être prêt pour lorsque le Seigneur va venir nous chercher. Non pas d'être en train de se préparer, mais d'être prêt. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur va venir nous chercher, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Soyons prêts. Soyons heureux. Soyons heureux. On sait que, je sais que dans les enterrements, c'est difficile, mais la parole de Dieu dit que ce n'est pas la fin pour nous. C'est juste on quitte cette terre, ce pèlerinage qu'on a exercé pendant X nombre d'années. Et là, on s'en va vraiment où on est le bienvenu et où on est vraiment chez nous. Dans le passage que je viens de lire, Apocalypse 19, 9, ce qui est émouvant, c'est de lire un peu plus loin un des derniers versets de la Bible qui nous rappelle l'esprit de famille. Et ce verset-là, c'est dans Apocalypse 22, verset 17. Et là, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Ce qui Ce que ça dit ici, c'est que l'Église, nous qui faisons partie de l'Église, nous devons prier pour le retour du Seigneur Jésus. Il ne faut pas oublier ça dans nos prières. On est appelé à prier. Et la notion de famille, comme je vous disais tantôt, se retrouve ainsi jusqu'à la fin de la Bible. Dieu n'a pas changé, et les conseils de Dieu dans sa parole, dans la Bible, sont les seuls conseils qui sont valables pour notre génération. La société, elle, elle évolue, les mœurs vont changer, changent continuellement, mais la parole de Dieu, elle, elle reste éternelle. Elle ne change pas. Elle ne change pas du tout. Arrêtons de chercher ailleurs, chez les savants, ceux qui écrivent des grands livres, des conseils du monde pour notre couple, pour notre vie de couple, pour notre famille. Ce n'est pas eux qui vont nous enseigner. C'est la parole de Dieu. Ne négligeons pas notre famille. Hein, je dis des fois à mes enfants qui ont des petits-enfants, soyez fidèles dans la lecture de la parole, soyez fidèles dans la prière, soyez fidèles à votre église locale. Parlez du Seigneur à la table. Je ne veux pas dire de faire un cocon, là, puis de tout se ramasser là-dedans, puis de parler rien de ça. Mais il ne faut pas négliger notre famille. Il ne peut pas y avoir de vrai bonheur si la famille va tout croche. Puis je pense qu'on a tous des expériences dans nos vies, dans nos familles, où c'est difficile. Et vous savez quoi? Il y a seulement Dieu. Dieu lui-même qui peut guérir la famille qui est malade. Maintenant, vous allez tourner avec moi dans Exode 20. Et je ne veux pas lire les versets 3 à 17, parce que c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Donc, tournez dans Exode 20, et on va aller au verset 3. Exode 20. Donc, dans les 10 commandements que Dieu a transmis à Moïse, les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu. C'est important qu'on sache quel genre de relation je veux avoir avec Dieu. Hein? Dieu me demande premièrement quoi? De ne pas adorer d'autres dieux. Hein? Le deuxième commandement, pas fabriquer aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. De ne pas s'incliner devant des statues de ce genre. De ne pas les adorer. Et enfin, de ne pas prononcer le nom de Dieu d'une manière abusive. Et de ne pas oublier, dernièrement, le jour du Seigneur, autrement dit, le dimanche, que nous, les chrétiens, on a choisi comme étant le jour du repos. Donc, ces 4 commandements-là parlent de notre relation avec Dieu. Et le premier commandement qui concerne les relations humaines, notre relation avec d'autres, c'est dans le Deutéronome 5:16, mais dans Exode, c'est Exode 20:12. Okay? Je vais vous lire ce que Deutéronome 5:16 nous dit, mais c'est la même chose que Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Dans ce court verset-là, on va dire comme on dit, il y a du stock. Il y a de quoi pour nos vies. Et comme vous le voyez si bien, si ce commandement-là est mis en pratique, il y a ce qu'on appelle une double bénédiction. Je vais vous laisser quelques secondes pour vérifier. On est béni deux fois lorsqu'on honore son père et sa mère. Premièrement, nos jours se prolongeront et nous serons heureux. Deuxièmement, c'est ça. Vous allez me dire, ouais, comment ça se fait que mes jours vont allonger? C'est quoi le rapport? Vous savez, les gens qui vivent en chicane, là, où il y a des tensions dans la famille, ces gens-là vivent une vie d'enfer, excusez l'expression. Et ça vient affecter ton moral, ta santé, tes nerfs, en tout cas, nommez-les. Donc, si on a mis en pratique le fait d'honorer son père et sa mère, habituellement, c'est qu'on a dans la famille une paix. Sinon, cherchons-la, si on veut être béni deux fois. Donc, les jours vont se prolonger, ça veut dire qu'on va avoir de plus belles journées. Et notre santé va être meilleure. C'est sûr que Dieu a déterminé d'avance, mais ça fait rien. C'est de voir nos jours se prolonger. Moi, je suis peut-être hypothéqué par ma santé, mais j'ai toujours le désir de voir mes petits-enfants grandir. Et ça, c'est inné à la vie. Et nous serons heureux, mais c'est concluant. Lorsque ça va bien dans la famille, lorsque la famille... On est dans le temps des fêtes. Il y a un paquet de familles qui, malheureusement, à cause de petites chicanes de là, longtemps passées, ou bon, non, de cas pas réglés, qui ne se rencontreront pas à Noël ou au jour de l'an pour célébrer la naissance de Jésus. Et c'est malheureux parce que, encore une fois, la famille, on n'en a pas pris soin. Je conclue en disant ceci. Il nous est dit que dans les derniers jours, avant l'avènement du Seigneur, il y aurait des temps difficiles. Hein? 2 Thessaloniciens 2, 3. Car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le terme apostasie veut dire faire le contraire de ce que Dieu demande. Et le mot grec apostasis signifie l'action de s'éloigner de, ou une défection, ou une désertion. Et ce mot est employé 2 fois dans le Nouveau Testament pour exprimer l'abandon de la foi. Donc, il faut se rappeler que Paul lui-même est faussement accusé d'enseigner aux Juifs de renoncer à la loi, comme on a vu dernièrement. Et ces gens-là ont appelé ça l'apostasie de Moïse, dans Actes 21, hein. Or, voici ce qu'on leur a déclaré. Ça, c'est des Juifs qui disent, « Tu enseignerais à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples la nécessité d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais, c'est-à-dire de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre les coutumes juives. » Et alors, les Juifs accusaient Moïse d'apostasier. Le même apôtre, Paul, annonce formellement la manifestation de l'apostasie finale avant le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Hein, ne vous laissez pas tromper par personne. Et aujourd'hui, là, je vous le dis, là, plus que jamais, puis ça va empirer, Paul dit, ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon. Et beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants vont essayer de s'infiltrer dans les églises, justement pour nous faire apostasier, pour nous faire éloigner de la parole de Dieu. Et Paul continue en disant, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Et un peu plus tard, 1 Timothée 4:1 dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Pourquoi je vous parle de l'apostasie, puis pourquoi je vous parle des derniers temps? C'est parce que là, il est temps qu'on mette de l'ordre dans la famille, dans nos familles. Attendons pas. Les derniers jours, c'était après que Christ est remonté au ciel. Donc, imaginez-vous qu'on est dans les derniers jours. Et ce qui va arriver dans les derniers jours, c'est que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et faites attention, là, c'est un plaisir qui va avoir l'apparence de la piété. Hey, on est correct, c'est, on parle de Jésus, on parle de Dieu, mais le plaisir, on peut se permettre à peu près n'importe quoi. Mais on va renier ce qui en fait la force. Le salut de Jésus-Christ. Il va venir un temps, frères et sœurs, où peut-être les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Plusieurs passages. Je vais juste vous les nommer, si vous les prenez en note. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Chapitre 4, versets 3 à 4. C'était toujours 2 Timothée. Ensuite, 2 Pierre 3, 1 à 4. Et enfin, Jude 1, 17. Donc, on ne peut pas dire que Jésus ne revient pas parce que le monde n'est pas encore assez chrétien. Mais Jésus ne revient pas parce que le monde n'est pas encore assez incrédule. Ça va s'empirer. Et on sait tous que seul Dieu connaît vraiment lorsque Jésus va revenir. Le comble de l'apostasie va être l'apparition de l'Antichrist. Et l'adoration de ce personnage par toute l'humanité révoltée contre Dieu. Apocalypse 13, versets 2 et 3 et verset 8. Et aussi où l'Antichrist est appelé la bête. Ça, on va arriver, on ne sera pas là, nous autres, au comble de l'apostasie, hein? 2 Thessaloniciens 2, 4. Et savez-vous quoi? Nous arriverons bientôt à ce temps prédit par le Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous qui serons enlevés avant les tribulations, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question qui doit être mise devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons veiller sur notre famille. Et notre famille, ça part de nous, les parents, puis ça descend jusqu'où vous voulez, jusqu'où? Petits-enfants, arrière-petits-enfants. Nous devons veiller sur les familles de nos petits-enfants. Le but de Satan, savez-vous quoi? C'est vraiment de détruire la famille. Et on voit déjà le résultat de son œuvre, hein? Des divorces, séparations. La drogue, la pornographie, chacun pour soi, liberté exclusive dans le couple, l'appât du gain, puis j'aurais pu continuer. Donc, soyons sur nos gardes. Soyons vigilants, Soyons bien informés par l'enseignement de la parole de Dieu et laissons-nous pas séduire par justement ce qui paraît être beau, ce qu'enseignent les faux docteurs. Mais ce n'est pas la vérité. Là où se trouve tout ce qu'il nous faut pour élever nos enfants et être prêts à combattre l'ennemi, c'est dans la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons, hein, si on veut mettre un défi en 2018, là, si on veut prendre soin de notre famille, on doit combattre le bon combat de la foi. Et on doit tous dire ensuite de ça, amen. Seigneur Dieu, merci pour la famille, Père, parce que sans la famille, ça ne serait pas vivable. Maintenant, cette famille-là, elle est attaquée par le diable, par Satan qui veut tout détruire. Seigneur, protège-nous. Protège-nous, les grands-parents, premièrement, qui avons élevé nos enfants, qui maintenant voyons nos petits-enfants apparaître, c'est-à-dire naître. Qu'on puisse être responsable de voir changer les choses. Et donne-nous la sagesse d'amener nos enfants, d'amener nos petits-enfants au pied de la croix. On a besoin. Les parents qui sont ici, qui sont nos enfants, c'est difficile. Donne-leur la force de continuer à se battre pour justement que leurs enfants maintenant, nos petits-enfants, puissent hériter de cette grâce-là, du salut parfait en Jésus-Christ. Qu'on puisse en famille, Seigneur, prendre du temps pour lire ta parole, qu'on puisse prendre du temps pour la méditer, qu'on puisse prendre le temps de chanter des louanges, qu'on puisse, comme papa, être capable d'enseigner nos enfants. Pas se fier seulement à l'école du dimanche. Pas se fier que d'autres vont le faire. Non, on est responsable. On est responsable. Donc, c'est le temps de vouloir se préparer. L'Église met à la disposition des gens des cours bibliques, des leçons bibliques, des enseignements bibliques, le dimanche matin, et aussi tout autre moyen, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse arriver prêt, pour qu'on puisse être capable d'affronter l'ennemi. Alors, Seigneur, dans ce temps des fêtes, veillons sur nos familles et soyons joyeux pour justement, faire montrer à ceux qui ne connaissent pas la joie du salut. En Jésus, je te prie. Amen.